Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien! Bon!
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Canu et le dimanche soir de 22h à 23h et quelques, c'est la causerie. Alors ce soir, causerie un peu spéciale, c'est une causerie enregistrée, sont quand même en présence les membres de la causerie, donc nous avons Clara qui ne répond pas, c'est les joies des réseaux, nous avons Fab.
Bonsoir.
Et voilà.
Et Jean-Yves qui fait l'ouverture.
Et juste, on vous rappelle comment nous joindre avant de partir directement dans notre causerie. C'est par mail lacausericanu@gmail.com, lacausericanu@gmail.com. Et évidemment, vous pouvez trouver les podcasts sur les blogs des émissions de Radio Canu et sur les plateformes d'écoute de baladodiffusion. Voilà, j'ai fait une intro rapide et c'est Fab qui prend la suite pour présenter nos invités.
Oui, alors ce soir, deux invités. Donc, on va préciser qu'on enregistre cette émission jeudi 10 parce qu'on va parler ce soir de ce qui se passe en Iran. Donc, les choses peuvent avoir évolué entre l'enregistrement de l'émission et le moment où vous l'écouterez. Donc, on reçoit ce soir Roya. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Babak.
Bonsoir à vous tous et toutes.
Ah, ça a l'air de marcher, donc c'est merveilleux. Les joies de la technique, on va continuer comme ça. Pour les auditrices et auditeurs, ils ne vous connaissent pas. Nous, on a la chance de vous connaître un peu depuis quelques minutes parce qu'avant l'enregistrement, on a échangé. Est-ce que vous pouvez vous présenter? On va peut-être commencer par toi, Roya.
Oui, donc bonsoir. Je suis une femme iranienne qui vit en France depuis… vous dirai exactement combien d'années, mais je dis que je suis arrivée quand j'avais 17 ans et ça fait plus de 30 ans. Je suis arrivée en Iran, en France, pardon, juste après le bac. Donc, j'ai fait mes études supérieures en France. J'ai travaillé en France. Je me suis mariée en France. J'ai eu un enfant en France et je me considère comme iranienne qui adore la France.
C'est une belle définition. Et toi, Babak, du coup?
C'est Babak, arrivé en France en 2016 par l'amour et curiosité. Je suis musicien, j'ai étudié génie civil, je suis ingénieur de BTP, j'ai travaillé 5 ans en Iran. Et en 2016, j'ai décidé de me déplacer, venir vers la France. Et ici, je fais que la musique et je gagne ma vie avec. Voilà.
Ok, d'accord. Donc, on a un musicien avec nous et vous comprendrez que toutes les musiques de l'émission seront des titres de Babak. Il en profitera ce soir pour aussi nous expliquer pourquoi ces titres et pour comment il les a parfois réarrangés, parfois créés. Voilà.
Et est-ce que je peux me permettre une question? Vous avez le droit de ne pas y répondre. Hein. C'est pourquoi vous êtes parti d'Iran?
Alors, moi, je commence. J'ai fait mes études au lycée. J'étais au lycée. Et donc, il y a eu la révolution de 1979, quand j'étais au lycée. Et quand j'ai eu mon bac après la révolution, je voulais passer les concours d'entrée des universités. À cette époque-là, donc à peu près 1 an et demi, 2 ans après la révolution, il y a eu quelque chose qui s'appelait la révolution culturelle. C'est que juste après la mise en place de la République islamique d'Iran, ils avaient des craintes par rapport aux universités qui où commençaient déjà des contestations étudiantes. Et donc, ils ont fermé carrément les universités pendant à peu près 3 ans. Et c'est là où j'ai décidé
Oui, ce qui voulait dire pour toi, pas d'avenir pendant au moins
de
3 ans, quoi.
faire mes études en France.
Ok. Et toi, Babac? Si tu as envie, hein, encore une fois, il n'y a pas d'obligation.
Non, il y a, enfin, j'avais mon père qui avait passé 2 ans de sa vie en France durant la, enfin, avant la révolution islamique. Il faisait partie des partis qui, des confédérations, des partis qui travaillent contre le régime d'Iran en France. Puis après, juste avant la révolution, il est entré, il est allé en Iran, et il était arrêté. Donc, on était obligé de rester en Iran, enfin, de naître en Iran, parce que c'était quelques ans après que je suis né. Voilà, en Iran, j'avais des souvenirs de mon père qui me racontait de la France. J'avais quand même des intérêts pour découvrir le pays. J'avais pas l'option de le faire parce que c'était pas facile à l'époque de partir facilement. Des problèmes, passeport, visa, financement et tout. Et après quelques ans, ma mère et ma sœur sont partis d'Iran. Ils ont allé en Allemagne. Ils ont vécu là-bas. Et du coup, j'avais toujours envie de découvrir ces pays. Mon cause n'est pas politique. C'était juste par la curiosité et voilà.
Ok, merci.
Et ben du coup, déjà merci pour votre présentation, parce que c'est jamais facile de se présenter à la radio. Voilà qui est fait. Moi, j'avais une petite question. Vous restez de toute façon tous les deux très attachés à l'Iran, à ce qui s'y passe. Comment aujourd'hui, vu ce qui se passe maintenant depuis une cinquantaine de jours, dans quel état d'esprit vous vous trouvez? Est-ce que il y a de l'inquiétude, de l'espoir? Comment vous ressentez les choses en fait? Alors peut-être commencer par toi, Roya.
Alors, moi, si vous voulez, c'est une. En même temps, je suis très, très contente. Je disais l'autre jour à une copine, c'est comme si j'ai reçu une gifle. Parce que je pensais que les jeunes étaient tellement dans les réseaux sociaux, dans la vie quotidienne, un peu attirés par le matérialisme, la vie normale, enfin, qu'il n'était pas du tout apte à entrer dans une lutte ou de vouloir changer leur vie. Je savais, enfin, j'étais persuadée que les conditions sociales, économiques, sociétales sont très difficiles pour le peuple iranien, notamment pour les femmes et les jeunes. Ça, je le savais de façon théorique. Mais quand j'allais en Iran, parce que je vais souvent en Iran, je me demandais, mais comment c'est, pourquoi c'est aussi apolitique? Pourquoi les jeunes ne sont pas comme nous quand on était jeunes, on parlait que de la politique et tout? J'étais un peu, on va dire, déçue. Et quand j'ai vu ces jeunes de 15 ans, aussi courageux, des filles, qui vont toutes seules devant les forces de l'ordre et qui n'ont pas peur, ça m'a donné énormément d'espoir. Ça m'a réveillée. Enfin, oui, c'était brutal pour moi. Sincèrement, je ne m'y attendais pas. Théoriquement, je m'y attendais. En pratique, je ne m'y attendais pas. Donc, je peux dire que je suis, on va dire, enthousiaste.
D'accord.
Voilà.
Et toi, Babak, tu ressens les choses comment?
Par rapport à la révolte des jeunes, précisément. Moi, je m'attendais pas non plus. Parce que il y a 2 ans, je pense, qu'il y avait une augmentation de prix d'essence 3 fois plus qu'il était. On avait une révolte qui a duré quelques jours. Il y avait des morts dans la rue par tir de la police, des centaines. Après quelques jours, ça a été éteint et c'était, enfin, c'était calme, quoi. Et là, à cause d'arrêter d'une jeune fille, à cause de la voile qu'il avait enlevée, et ça a devenu comme ça d'un coup, un jour. Enfin, je mets des lives sur ma page d'Instagram, souvent. J'ai lancé un live, j'ai vu les gens, les participants, tellement en colère, tellement déçus, fâchés et tout. Je me suis dit, oh, il y a quelque chose, c'est pas comme d'habitude. Et le lendemain, j'ai vu que voilà, les gens, ils manifestent, ils vont dans la rue, et ils ne s'arrêtent pas à manifester, quoi. Et ça a duré, ça a duré, ça a duré, il y a enfin, presque 2 mois là maintenant. Donc, là, au début, j'étais un peu silencieux parce que je pouvais pas me positionner rapidement. Je voudrais attendre pour savoir qui va vers où, c'est comment la situation et tout. En tant qu'un artiste, quelque part engagé, qui a les followers, qui a les fans, quand il réagit, ça montre quelque chose, ça encourage quelqu'un et tout. Mais quand même, j'ai attendu un peu, mais le courage des gens m'a encouragé aussi un peu pour parler, pour montrer, pour composer. Après, j'avais besoin d'un temps, mais
Et je me disais, est-ce qu'on peut résumer, enfin résumer, non pas résumer, mais est-ce que on peut aller peut-être au-delà, parce que enfin au-delà. En fait, je pense que effectivement, il y a eu le meurtre, on peut l'appeler comme ça, de, je n'ai plus son prénom,
Massa
Mahsa
Amini.
Amini. Mais avant ça, alors évidemment, c'est un événement qui compte dans ce soulèvement et tout ça, mais dans les années précédentes, enfin déjà, il y a eu le Covid qui en Iran a été géré très mal. Est-ce que vous pensez que ça a aussi joué sur l'énervement, l'agacement, le niveau de vie? Enfin, est-ce que vous pensez qu'il y a plusieurs éléments justement qui nourrissent quand même cette colère? Alors, il y a évidemment aussi la police des mœurs, tout ça, il faut quand même que en France, on se rende compte de ce que ça veut dire en Iran. Est-ce que voilà, est-ce que pour vous, justement, il y a plusieurs éléments qui viennent nourrir cette colère et cette révolte, en fait?
Et ce que je vois, c'est sûr, il y a la faiblesse financière des gens, il y a la liberté des femmes et tout. Il y a les autres bêtises qu'a fait le gouvernement. Et voilà, le gouvernement théocrate, depuis des années, qui existe, Internet déjà, les jeunes, ils attendent pas des idéologies qui les ramènent vers le ciel ou métaphysique et tout. Ils recherchent, ils regardent sur Internet, ils voient des choses, ils acceptent pas ce qu'ils racontent les profs à l'école ou même les parents à la maison et la télé. Ils regardent la télé, ils voient qu'il n'y a pas les instruments de musique depuis 43 ans. Interdiction de montrer les instruments de musique à la télé. Ça, c'est incroyable, quoi. Et ils cherchent, ils regardent, enfin, ils voient qu'il n'y a pas de raison. Ils regardent qu'il n'y a pas les chanteuses au concert quand il va voir un concert. Pourquoi les chanteuses, les joueurs féminines, ils ne sont pas présentes? Eh ben, tout ça, il les interroge, il se pose la question, il va vers la vérité, vers les raisons et tout. Et d'un coup, ça s'explose, quoi, je pense. Je pense. C'est une autre explosion.
Mais si vous voulez, en fait, depuis le début de la Révolution, jusqu'à il y a à peu près un an, il jouait sur le fait qu'il y a deux tendances, les réformateurs et les fondamentalistes. Mmh. Au moment où il y a eu le mouvement « Où est mon vote ?» en 2009, donc les jeunes disaient, enfin c'était plus la classe moyenne aisée, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de tricherie pour l'élection de Ahmadinejad? Mais ils demandaient où est mon vote, c'est-à-dire ils demandaient aux deux factions du gouvernement encore. En 2017 et 2019, c'était plus des contestations pour le niveau de vie avec des couches populaires, donc vraiment sur le pouvoir d'achat, avec des mouvements un peu dans chaque catégorie, mais pas de coordination générale, mais vraiment des contestations sur pourquoi la vie est chère. Mais on peut dire que depuis l'élection de Raïssi, où il est arrivé au pouvoir avec une seule tendance qui a l'ensemble des éléments du pouvoir, l'histoire des deux courants, enfin les gens n'y croient plus du tout, c'est fini. Et très vite, la contestation contre, d'abord c'était contre la brigade de mœurs, donc les Gashtes Ershad, très vite c'est devenu contre le foulard, enfin le voile islam obligatoire, et en quelques jours, c'est devenu « on ne veut pas de régime, on ne veut pas ce régime ». Le slogan était très très radical par rapport aux deux dernières fois. Alors, bien que les deux dernières fois, ça a aussi été bien réprimé, hein. C'est-à-dire que, comme a dit Babak, c'était des mouvements qui ont été réprimés, oui, avec des arrestations, voire même des morts. Mais cette fois-ci, la différence que je vois de l'extérieur, parce que je ne suis pas dedans, mais je vois à travers les vidéos, à travers ce que j'entends, c'est que la colère est énorme, c'est bien un ras-le-bol généralisé qui n'a plus espoir dans les réformateurs, enfin dans un changement au sein du pouvoir, et qui dit « mort au dictateur ». Enfin, très vite, le slogan « mort au dictateur » est arrivé. Au début, c'était oui, enfin, contre le gâche, les brigades, etc. Mais très vite, les jeunes expriment avec colère leur refus de continuer à réclamer à ce gouvernement de changer. Et ça, je trouve que c'est nouveau. Puis, c'est un mouvement qui est quand même mené par les femmes. Hein. Il y a beaucoup de femmes et beaucoup de jeunes, beaucoup de lycéens, beaucoup d'étudiants. Mais, c'est dans toutes les villes. Donc, il y a plus de 80 villes. Il y a dans les petites villes, les grandes villes, dans les milieux ruraux. Enfin, c'est l'ensemble de pays. C'est pas que dans les grandes villes, par exemple. Et voilà, après, il n'y a pas de coordination visible. C'est des mouvements qui commencent dans tel quartier, telle ville, sous des formes qu'ils trouvent, qu'ils essaient de profiter de chaque occasion. Voilà ce qu'on voit.
Mmh. OK.
On va faire une petite coupure musicale parce que, comme la musique en Iran, on l'a fait sans montrer les instruments à la télé. Nous, à la radio, on ne peut pas montrer les instruments, mais on peut les entendre.
C'est ça qu'on entend à la radio, beaucoup de musique en Iran.
Donc, du coup, on va faire une pause musicale et on revient juste après pour continuer à parler de ce qui se passe en Iran aujourd'hui.
میخواهم در زمینی مرطوب و پر حلزون گودالی ژرف حفر کنم و چون کوسه ای در موج فراموشی فرو رفته بخوابم یک مرده آزاد و خوشبخت Je veux creuser moi-même une fosse profonde où je puisse à loisir étaler mes vieux os et dormir dans l'oubli comme un requin dans l'onde.
Un mort libre et joyeux, un mort libre et que d'implorer une larme du monde. Vivant, j'aimerais mieux inviter les corbeaux à saigner tous les bouts de ma carcasse immonde. Voyez venir à vous un mort libre et joyeux.
Causerie sur Radio Canu et toujours cette causerie avec Roya et Babak, spécial Iran. Et on vient d'écouter un titre que Babak va nous présenter.
Le mort joyeux de Charles Baudelaire. Ça fait partie des poèmes de Fleur de Mal de Charles Baudelaire. Ce que j'ai lu, je pense, en 2016, 2017, je pense, et je l'ai trouvé intéressant au niveau de la poésie, philosophie. Il parlait d'un mort qui est libre et qui est joyeux. Je me suis dit, la mort a été définie pour nous comme des choses catastrophes, tristes, effrayantes et tout. Alors, comment un poète peut avoir ce point de vue sur la mort. Et je l'ai lu, je l'ai traduit un peu et je l'ai mis en musique. À l'époque, j'avais pensé à fonder un groupe en France. J'avais trouvé deux, trois musiciens comme Thomas Guterlet, Pierre Boutelan, qui jouaient la guitare et la percussion. on s'est mis à chanter et jouer cette chanson. Et là, la chanson fait partie de notre album qui s'appelle Hezar Bishe.
Et donc, du coup, en persan, ça donne quoi le mort joyeux?
Mordeye Rochepart.
Voilà. Voilà, comme ça, la boucle est bouclée. Juste avant la pause musicale.
Ce qui est très bizarre en persan.
Ah oui?
Parce que, comme a dit Babak, un mort ne peut pas être joyeux. Donc, c'est
Ah.
déjà deux mots.
Oui,
Et
bon. En français aussi, hein, Baudelaire, il avait choqué avec mort joyeux. Mais donc du coup, juste avant la coupure musicale, on parlait de cette révolution. Vous l'appelleriez comme ça, vous, révolution ou révolte? Quel mot vous mettriez dessus?
Roya, tu utilises révolution, si je ne me trompe pas.
plutôt révolte pour l'instant.
Ah
Révolution, c'est quand la masse.
oui.
Je crois pas que la masse a démarré. Ouais, pour
Pas
moi,
encore. Au début de révolution,
une
enfin, je
révolte
sais pas.
qui dure plus qu'un mois, ça peut être une révolution, même si c'est faible.
Non, mais c'est bien de voir qu'il y a des points de vue un peu différents, des visions un peu différentes. Mais au final, on a quand même aujourd'hui beaucoup de gens qui descendent dans les rues, qui manifestent. Et Roya, tu disais quelque chose qui est intéressant, c'est que tu disais il y a beaucoup de femmes et de jeunes qui prennent finalement la tête de ce mouvement, enfin, ou du moins qui sont au cœur, qui
Participe.
participent, qui sont au cœur de ce mouvement. C'est nouveau, en fait, en Iran, que notamment les femmes et les jeunes femmes prennent comme ça l'initiative politique.
Écoute, l'initiative politique, non. Parce que dès 1906, les femmes iraniennes se sont battues pour leurs droits. Le premier magazine féministe en Iran, 1906, au moment de la révolution constitutionnelle. Donc les femmes iraniennes, il y a une histoire longue. De combat, de lutte, etc., que je ne vais pas ici évoquer. Mais la première fois que les femmes, oui, sont en avance, c'est-à-dire que c'est les femmes qui, quelles que soient les vidéos, on voit beaucoup de filles, on a l'impression que c'est les filles qui mènent, parce que c'est parti du foulard obligatoire, parce que les filles en ont marre, parce qu'en Iran, par exemple, je vous donne un chiffre, il y a 3 200 étudiants. Et dont 60% de filles, environ 2 millions de filles étudiantes. Donc, c'est des femmes qui sont instruites, qui sont dans la vie, dans le travail. Moi, par exemple, quand je vais en Iran, je vais à la banque. C'est marrant parce que c'est plusieurs fois que j'ai vu ça. Je vais à la banque, la personne qui sait faire les choses, c'est une fille. Le chef est un mec, mais quand il veut travailler, il appelle une femme. Je vais chez le notaire, c'est la femme qui rédige bien tous les papiers, c'est elle qui sait faire, qui maîtrise bien l'informatique et tout. Et le mec, il est là parce qu'il est le chef
Oui.
du cabinet notarial. Voilà. Et en tout cas, les femmes, ça fait, moi j'ai envie de dire, depuis plusieurs années, à chaque fois que je vais en Iran, je vois que les femmes sont très actives dans la vie. Et puis, ça leur convient plus, tous ces trucs moyenâgeux. Faut demander l'autorisation du mari pour voyager. Enfin, non, il y a une contradiction évidente entre le niveau, comme a dit Babak, des jeunes et des femmes, et le langage, les lois dépassées du régime. C'est comme un vêtement d'une fille de 5 ans qu'on veut mettre à une femme de 30 ans. Ça va pas. On peut pas faire. Du coup, oui, je pense que c'est un peu la suite, c'est pas brutal, c'est la suite des événements qu'on avait un peu déjà vus, notamment avec les femmes.
Babak, tu allais dire quelque chose, non?
Oui, et non. Comme Roya a dit, la révolte a dépassé quelque chose. Avant, il y avait quand même des respects pour quelque chose, la peur de quelque chose. Cette fois-ci, on voit les jeunes qui font des défis, le challenge de faire sauter les vêtements des moulas. Et ça, c'est au début, c'était un peu choquant pour moi, mais après, quand ça a devenu une action contre le régime, ça se banalisait pour tout le monde. Et là, on s'amuse à voir les vidéos qui est comme ça, où les jeunes, ils insultent dans les paroles qu'ils disent aux manifestations. Et les insultes sont des fois, contre les... Enfin, vous voyez que les insultes, la plupart des insultes sont contre les femmes. Mm-hmm. Et là, ça se passe quelque chose comme ça. Et j'étais d'abord contre, et j'allais d'être opposé face à ça. J'ai vu que les plupart des gens qui insultent sont des femmes, mais ils insultent quand même. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le même sens qu'avant pour les insultes même. Mm-hmm. Comme c'est une armée contre le régime, elles font ça, elles utilisent. Et il y a quelques définitions qui ont changé aussi durant cette révolte. Du coup, je vois de nouvelles choses qui n'étaient jamais avant.
Et ben justement, enfin, c'est quoi ces nouvelles choses que tu n'as jamais vues avant ?
Insulter directement les premières personnes de l'État, mm-hmm. le guide, le leader, enfin le CEPA, qui c'est l'armée de Ayatollah et tout. Et du coup, attaquer les moulas, quoi, dans la rue et les ruelles et tout. Ça, on n'a jamais vu.
Ça, c'est vraiment un niveau... on va dire encore plus avancé c'est symbolique d'un ras-le-bol complet d'un pouvoir religieux, en fait. Parce que c'est, enfin, je sais pas, après vous me direz si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est pas tant la religion comme une croyance individuelle, que chacun fait ce qu'il veut. Là, c'est vraiment le pouvoir religieux politique, quoi, qui est vraiment visé et qui est la cible première, j'ai l'impression, quand même, de beaucoup de choses, quoi.
En même temps, c'est, oui. Oui, bah, et le peuple, il a compris. Il a compris à fond. Il sait maintenant c'est quoi la théocratie, il sait maintenant c'est quoi le totalitarisme, il sait c'est quoi être guidé par une seule personne, un seul personne, tout le temps, qui se change pas. Il y a des votes, mais pour le gouvernement, pour le président et tout, mais ce qui ordre, il va pas changer.
Oui, c'est le guide suprême.
Le guide, je ne sais pas les mots français qui expliquent bien, peut-être Roya pour mieux expliquer. Mais moi, en tant qu'un musicien, qui a un rôle de l'artiste, quoi, dans la société, je vois comme ça. Moi j'aime pas le gouvernement théocrate, totalitaire. Je vois pas mon rôle dans la décision. Quand je veux voter, je me pose la question, ça va où, mon rôle, mon vote va où? Donc je vote pas. J'ai voté une fois, exceptionnellement c'était pas mal, j'étais pas très je me regrettais pas de voter pour une fois. C'était un des présidents et l'Iran, mais après ça, j'ai jamais voté parce que je vois pas mon rôle, je vois pas mon vote, je me vois pas dans la décision. Du coup, je pense qu'on nous prie pour les moutons et ils font ce qu'ils veulent sans être responsable de ce qu'ils font. Et là, je crois vraiment qu'il doit se mettre aux genoux et qu'ils doivent répondre, qu'il doit se mettre autour d'une table. Mais le problème, c'est qu'il ne voit aucun des opposants en tant que leader qui se présente de l'autre côté de la table. Il voit tous les manifestants comme les ennemis de la révolution, comme les ennemis de la religion, comme les espions, comme les gens qu'il faut les tuer ou faut les emprisonner, il faut les mettre à la prison. Et aussi, il y a une partie qui sont dehors d'Iran, qui sont dans les pays étrangers. que c'est encore pire. Ils ne croient pas. Et les gens qui vivent à l'étranger, ils ont peur de donner ces avis aux gens qui sont à l'intérieur, parce que tout de suite, les gens de l'intérieur et les gens du gouvernement, ils disent, voilà, ils prennent l'ordre de l'États-Unis ou les pays européens pour détruire l'Iran, pour les séparer en quelques parties et tout.
Il y a une grande paranoïa en fait qui est installée.
Voilà, et ils profitent les paranoïas comme ça, ils mettent ces paranoïas contre Israël, les pays, les ennemis et tout, pour se donner le courage et se donner la peur pour garder le pouvoir. Et les gens, ils comprennent maintenant que ce n'est pas tout à fait vrai.
Et Roya, si tu peux peut-être préciser ce qu'on appelle en France le guide suprême,
Oui, le guide suprême, enfin, dès le début de la révolution, il y a la position de guide suprême qui est allée dans la constitution iranienne et qui est au-delà, en fait. On a un président de république, on a des ministres, et on a un guide suprême avec un conseil de discernement qui décide sur vérifier si tout ce qui était, par exemple, adopté au Parlement par les députés. Ils vérifient l'adaptation, la conformité, si tu veux, font la conformité avec les lois islamiques. Cela dit, moi, j'apporte quand même une petite nuance. L'aspect théocratique, l'aspect islamique, évidemment, n'est pas peut-être adapté aux jeunes d'aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a encore autre chose qui est très grave dans la vie de tous les jours, c'est la corruption structurelle de ce régime, quel que soit le camp, que ce soit les réformateurs ou comment, fondamentalistes. Quand on regarde, l'autre jour, j'ai regardé la liste, une liste qui a été faite et qui est sur Wiki, vous pouvez voir, de la corruption, quel que soit le gouvernement. Le dernier, par exemple, je vous donne un exemple. Une grande usine d'acier, Foulad et Mobarakeh, qui s'appelle Foulad et Mobarakeh. J'ai vu, c'est dans les journaux officiels, hein, c'est pas un truc, c'est pas quelque chose de diaspora. Eux-mêmes, ils ont dit, il y a eu 3 milliards de dollars de pots de vin. Vous vous rendez compte?
Ah oui, c'est
Pour
énorme.
un pays où 45% de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté. 10% des Iraniens n'ont rien à manger. Et ça, c'est des chiffres qui viennent d'Iran. C'est un journal qui s'appelle Jahan-e-Sanat, qui a écrit ça, qui est publié en Iran. Ce n'est pas les diasporas, les journaux. Donc, je pense que dans ce contexte social difficile, où, par exemple, on a un taux de chômage parmi les femmes qui ont fait des études qui avoisinent 30%. Donc, c'est une situation économique difficile à vivre et qui, à mon avis, ça crée les bases d'un mécontentement réel. Un mécontentement qui n'est pas seulement enfin, oui, évidemment, c'est lié le régime théocratique islamique, mais la raison aussi, c'est vous allez être étonné, l'Iran applique les directives de la Banque mondiale, de Fonds monétaire international, dans la privatisation des facs, des facultés, des hôpitaux. Enfin, exactement les mêmes directives qu'en France ont détruit le tissu social. Donc, tu vois, enfin, il y a tout ça qu'il faut pas oublier. Et si je peux finir avec une seule phrase, moi, tous les soirs quand je dors, je pense et j'ai peur de l'intervention américaine, qui est une réalité aussi. Si vous regardez la région, l'Afghanistan, la Syrie, la Libye, l'Irak, etc. Donc moi, je sais que cette crainte est utilisée par un régime pourri, mais en même temps, c'est une crainte réelle. Et c'est ça qui est paradoxal.
En fait, tu espères que le peuple se libère de lui-même, plutôt que,
Exactement.
voilà, pour le poser comme ça.
C'est tout à fait bien résumé.
Donc, on va faire une petite courte pause musicale avec une chanson donc toujours de Babac que vous devriez reconnaître, même si au lieu d'être sur deux temps, elle s'est retrouvée sur sept temps. Mais c'est le problème quand on passe en persan.
Passeront au coup. Je ne fais pourtant d'autorat à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Nous les braves gens n'aiment pas que nous suivons notre route. Nous les braves gens n'aiment pas que nous suivons notre route. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Et vous êtes toujours dans la causerie au 102 sur radiocanu.org, une causerie qu'on a enregistrée le jeudi 10 novembre. Et donc, du coup, toutes les chansons sont de notre invité Babac, et qui est accompagné de Roya, mais par le plus grand des hasards, parce qu'ils ont accepté tous les deux ce soir de venir parler de l'Iran. Mais donc, du coup, Babac, je pense qu'on a un peu tous reconnu ce titre, qui est de Georges Brassens au départ, qui s'appelle « La mauvaise réputation ». Et donc l'adaptation, elle t'est venue, l'envie t'est venue d'où ?
Toujours par la parole. J'ai essayé de comprendre ce qu'il raconte, Georges Brassens dans ses chansons, et ça m'a plu, celle-ci et les autres aussi. Ces chansons sont présentes d'habitude dans mes concerts. Je chante, j'interprète une ou deux chansons de Brassens souvent dans mes concerts. Mauvaise réputation, c'est quelque chose qui se passe aussi dans mon pays. On se juge et on se préjuge trop face à cette, je dirais, imperfection qu'il y a chez les gens. De casser les sucres sur le dos de quelqu'un, ou le juger et parler de quelqu'un. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette parole. Je me suis dit, il faut changer quelque chose, il faut l'orientaliser, iraniser, persaniser et tout. Donc, il y a des rythmes un peu boiteux qui se jouent en Iran, en 7 temps, 5 temps, dans la musique persane. Puis, je l'ai mis sur 7 temps. J'ai ajouté quelques parties instrumentales pour donner des côtés musique orientale là-dedans. J'ai fondé un groupe de la musique traditionnelle iranienne qui s'appelle la Bande de Fourmis. On a joué à Paris une fois et la chanson était une des titres choisis parmi les autres chansons. Donc, ce que vous avez entendu, c'est cet enregistrement live de ce concert avec le kamanché, l'instrument à l'archet traditionnel iranien qui a été joué par Sarvanaz Khodayari, et le zarb, la percussion traditionnelle persane qui a été joué par Shirin Fallahi, et le tar, l'instrument à gratte traditionnel persan qui a été joué par moi-même. Voilà.
Et je me demandais, juste pour la blague un peu, mais est-ce que quand Georges Brassens dit le 14 juillet, il reste dans son lit douillet, est-ce que tu as mis la date de la révolution des Mollahs?
En fait, pour nous, c'est Bistodoé Barman, car on a notre calendrier. C'est le 22 du mois de Barman, c'est le jour de la révolution islamique.
Ah oui, tu l'as. Ok.
Et on la fête chaque an dans les écoles.
Cool.
Elle a
Génial.
été persanisée.
Totalement.
Donc juste avant la coupure musicale, on parlait, enfin Roya, tu parlais de la corruption qui est extrêmement présente en Iran, du régime qui finalement encourage quasiment cette corruption. Moi, j'ai lu en préparant l'émission qu'à peu près 60% des biens iraniens appartiennent aux gardiens de la Révolution, ce qui est quand même juste dingue, quoi. Enfin, c'est difficile d'imaginer que ce soit aux mains de quelques personnes finalement. Est-ce que pour vous, enfin, cette situation, elle est endémique de la révolution au départ, ou est-ce que c'est une dérive de cette révolution en fait?
Enfin,
Alors peut-être Roya.
moi, au moment de la révolution, j'étais adolescente, mais je comprenais quand même, comme les ados d'aujourd'hui. Donc, nous à l'époque, notre revendication, c'était qu'un régime dictatorial tombe, gendarme de la région, valet des Américains, etc. Bon. Et on souhaitait la justice sociale. Les premières années, peut-être 1 ou 2 ans, il y avait beaucoup d'idéalistes qui avaient créé la croisade pour la reconstruction, des choses comme ça. Et puis, beaucoup de choses étaient décidées dans le sens du peuple dans les premières années. La guerre, 8 ans de guerre.
Iran-Irak, hein, on va rappeler.
Iran-Irak, les sanctions qui ont commencé vite, ont favorisé la montée on va dire, des trafiquants, de ceux qui détournent les sanctions, qui s'enrichissent. Et du coup, c'est devenu structurel. Des gens qui s'enrichissent sur le dos du peuple, avec, ben, quand il y a sanctions, à côté, il y a toujours des bandes comment? Des mafieux, des
Il y a des
mafieux.
profiteurs, il y a toujours des profiteurs quand il y a
Des
sanctions.
profiteurs. Donc, c'est devenu structurel. Et pourquoi les pastarans? Parce que c'est beaucoup plus simple pour une force armée, ben, de pouvoir, sous prétexte de contourner les sanctions, de s'enrichir. Moi, je connais un peu, mais là, ça va être long à expliquer, le réseau de mafia des médicaments, et dont les victimes sont les Iraniens, puisque même l'envoyé spécial de l'ONU a dit que les sanctions ont causé des morts en Iran, beaucoup de morts, à cause de manque de médicaments. Et à côté de ça, il y en a qui s'enrichissent. À chaque fois que je vais à Téhéran, c'est étonnant la différence de classe sociale qu'on voit entre le nord, par exemple, les quartiers nord de Téhéran. On a des maisons qu'on ne voit pas dans les films américains.
Okay.
Des maisons que tu peux entrer avec ta voiture dans l'ascenseur et des piscines à l'étage. Ouais. Sincèrement.
Ah oui,
okay. Et puis quand tu descends un petit peu, tu vas au sud de Téhéran, un peu plus au sud, enfin il y a des gens qui n'ont rien à manger. Dans des régions comme Baloutchistan, par exemple, quand on compare le niveau de vie à Baloutchistan et même à Kurdistan avec les quartiers UP de Téhéran, c'est incroyable cette différence. C'est incroyable.
Donc finalement, les Mollahs, même avec la grâce de Dieu, ils ne sont pas arrivés à essayer de rééquilibrer un peu.
Enfin, la justice sociale, je pense que ça a été abandonné très vite.
C'est ça que je voulais dire, merci.
La liberté aussi.
Ouais.
Donc, la démocratie et justice sociale, vite abandonnée. Troisième slogan de la révolution, c'était l'indépendance. Et là, peut-être, on peut... c'est discutable.
Ok, ça reste oui, très discutable là aussi.
En fait, j'avais juste une petite question. Après, on peut aller sur des choses plus concrètes, sur la solidarité, l'entraide ou autre. Mais en fait, j'avais quand même une petite question, c'est parce qu'on parle beaucoup depuis le début de les jeunes, les hommes, les femmes, etc. Mais est-ce que dans ce mouvement de révolte ou de révolution, est-ce qu'on a aussi une fracture générationnelle entre les jeunes qui, eux, n'ont connu que ça et n'en veulent plus, et des anciens? Enfin, est-ce qu'il y a cette fracture-là? Ou est-ce que c'est plus compliqué que ça?
Ah, tu as coupé le sifflet à tout le monde.
Alors, je ne sais pas si Babak va compléter, mais moi, je ne pense pas qu'il y ait une rupture générationnelle.
Okay.
Je pense qu'il y a une continuité. Peut-être que c'est vrai que les personnes un peu plus âgées ont peut-être moins participé, mais commencent à participer. Parce que j'ai eu des échos de grèves, par exemple en pétrochimie ou dans d'autres usines. Mais peut-être que les personnes qui ont vu la guerre, parce qu'il y a encore des personnes qui ont vu la guerre, ou des enfants de ceux qui ont vu, ou de ceux qui étaient enfants pendant la guerre Iran-Irak et qui maintenant ont plus de 40 ans, peut-être qu'ils n'ont pas envie de violence. Je me demande, hein. Enfin, je ne peux pas vous dire. Je me pose des questions. Mais je pense qu'ils ont. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas d'accord avec les revendications des jeunes. Et ça ne veut pas dire qu'ils approuvent. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord avec le régime.
Ah oui, non.
Mais ça veut peut-être dire qu'ils réfléchissent. Ils n'ont pas envie de chaos. Ils n'ont peut-être pas envie de violence. Enfin, c'est des questions que je me pose, mais je ne peux pas parler en leur nom.
Bien sûr, on est bien d'accord. Non,
en
mais
tout cas, ce que je peux dire, c'est que je suis persuadée que ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord.
Oui.
Avec les orientations.
C'est plus complexe.
Parce qu'ils se sont appauvris aussi. Enfin,
oui.
Voilà. Après ça, je ne sais pas qu'est-ce que en pense Babak.
Moi, j'avais écrit un post disant que les gens plus de 30 ans, il ne faut pas prendre ces paroles en compte en fait, pour cette révolte. Il ne faut, pas prendre en compte ce qu'ils disent les plus âgés de 30 ans.
Il faut écouter la jeunesse quoi, pour toi.
C'est comme ça qu'ils vont réussir la révolution.
Mais en même temps, pardon, l'Iran est un pays assez jeune, non, si je ne me trompe pas.
Ouais.
Alors oui, j'ai les chiffres, parce que hier j'ai travaillé sur les chiffres. Fabien, il sait que j'adore les chiffres.
Ouais.
50,7% de la population iranienne a moins de 30 ans.
Ok.
Seulement 14% est né avant la révolution.
Ah, oui.
Plus de 26%, enfin, environ 26% a entre 15 et 30 ans. C'est une population jeune.
Ok.
Une population jeune. Donc, la mémoire de révolution.
Mais on a vécu, on a vécu le résultat de la révolution en tant que les gens. Après, oui, j'avais blagué un peu sur le sujet de fermer les usines de préservatoires en Iran pour.
Préservatif.
Ah, préservatif, ok.
pour que les gens n'arrêtent pas à faire les bébés, quoi.
Mais la parce que plus population. c'est jeune, plus c'est révolutionnaire, c'est ça que veut dire
Non, en fait, il s'est trompé, le gouvernement, il s'est trompé. Il a interdit de s'arrêter à faire des bébés. Et là, les bébés, ils sont grandis et là, ils les embêtent.
Mais
Ah bah le
il
planning
disait, oui, voilà,
familial.
il disait toujours, il faut faire les enfants, il faut faire les enfants, on a besoin d'une armée de 90 millions de personnes. Et là, les 90 millions, ils ont des attentes.
C'est ça, c'est
Il
normal.
se retourne contre.
Moi, j'avais une question pour toi, Babak, toi qui es musicien. Le poids et le rôle de la musique dans ces révoltes, dans cette révolution, pour moi qui suis un Français loin de tout ça et où on ne sait même plus chanter un seul slogan dans une manif, c'est très surprenant pour nous de voir que beaucoup de choses se font en musique finalement, ou avec des chants, ou c'est quelque chose qui est marqué en Iran, ou c'est cette jeunesse qui s'empare de ce moyen-là, en fait, finalement.
Oui, à la base, la musique pour la partie religion chiite n'est pas une bonne chose. Ils sont contre la musique. Shajarian, le monstre sacré du chant d'Iran, qu'il était le meilleur, il travaillait en Iran, et voilà, dans la musique traditionnelle, il disait que les religieuses, ils se sentent une concurrence entre les musiciens et les moulas, parce qu'ils utilisent les mêmes principes pour émotionner les gens, pour les amener vers quelque part, et faire travailler l'imagination et tout. En plus, ils chantent, les moulas, ils chantent dans les mosquées et tout. Et donc, il disait ça, Chajarian. Et là, je le sens. Je pense que c'est pas faux. Donc, ils étaient toujours en train de censurer les artistes, les musiciens. J'en étais blessé aussi. Et puis, on peut diviser l'histoire de la musique après la révolution islamique, avant l'Internet et après ça. Parce que après la présence d'Internet, les jeunes, les musiciens, ils ont pris les logiciels, ils s'est produisaient autonomes à la maison, ils faisaient underground musique, voilà, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Après, il y en a les musiciens underground qui ont été arrêtés, qui ont été exilés, qui ont été embêtés, mais quand même, ils n'ont pas réussi à arrêter les musiciens. On a une partie des musiciens qui travaillent officiellement, c'est-à-dire ils passent son permis par le ministre de la Culture, c'est-à-dire toutes les paroles vont être vérifiées, il n'y a pas du vin là-dedans, il n'y a pas de kiss là-dedans, il n'y a pas des choses anti-révolutionnaires là-dedans. Après, il te donne une permission pour jouer et chanter ou à faire sortir ton livre, enfin, peu importe quelle œuvre d'art. Là, d'un coup, on voit un jeune garçon qui apprend les phrases qui a été tweetées pour la liberté, pour la corruption, pour tout ce qui allait mal en Iran. Et il a mis en parole toutes ces phrases et il a mis en musique. Je l'ai vu sur Instagram, comme ça, j'ai écouté, j'ai fait passer. Le lendemain, j'ai vu que c'était mondial. Et là, il est pris pour le prix de Grammy, je pense, enfin des choses comme ça. Tout le monde le chante, tout le monde l'interprète, tout le monde le reprend, et même moi dans un concert, l'a chanté.
Je vais te laisser.
Alors, on voit le rôle de la musique qui est d'un côté interdit en Iran, interdiction de montrer un instrument, ou les musiciens à la télé, les femmes sur scène. Certaines villes autorisent les femmes à monter sur scène. Ma ville, il l'autorise pas. Ma ville natale est Ispahan. J'ai travaillé avec 12 femmes dans un groupe. Je savais pas. Je suis allé prendre ma permission. On m'a dit, ah bah, vous vivez pas dans ce pays. J'ai travaillé il y a 6 mois, hein, avec un groupe, avec 12 femmes qui jouent la percussion. On m'a dit, non, il n'y a pas d'autorisation de monter sur scène et faire la musique pour les femmes. Et c'est pour ça que j'ai dit, OK, on va monter les femmes, mais elles vont pas jouer. On a mis les marques sur les instruments. On les a montés sur scène derrière les hommes. Les hommes ont joué une heure de la musique. Les femmes, elles ont resté silencieuses. Donc, on a apporté quand même un message important aux spectateurs. Ils n'ont pas joué, mais elles étaient présentes sur scène. Donc, il y a des choses comme ça qui passent, mais quand même, la musique est forte. Ça s'envoie, ça se dégage des messages. Et c'est pour ça que Shervin a réussi à publier sa chanson, sa belle chanson.
C'était Baraillé, la chanson, c'est ça?
Baraillé.
Je crois que Clara nous fait signe qu'il est temps de faire une coupure musicale. Donc, on va se retrouver juste après et on terminera.
Ah, justement, en fait, Shervin commence sa chanson par « pour pouvoir t'embrasser dans la rue, pour être libre de faire ça et faire ci ». Et ma chanson, si c'est « I would like to kiss you ».
C'est exactement celle-là.
Ça dit la même chose, mais ça a été enregistré il y a quelques ans.
Okay. Allez, bon, on écoute ça.
دارم ببوسمت امشب زیر بارون توی میدون شاه وقتی پشت ابرا میمونه ماه در جوار شیخ لطف الله دوست دارم ببوسمت سرمست توی پس کوچه های خاقانی تو کلیسای حضرت لوقا بوسه ای نه به سست ایمانی تو کنیسه حضرت داوود دوست دارم ببوسم دیوونه تا که موسی عصاشو برداره از گلوی کبود رودخونه آب بیا آب بیا از گلوی خشک رودخونه از گلوی خشک رودخونه دوست دارم ببوسمت مثل عکس ماه تو آب افتاده مثل انگور کهنه جلفا که به دام شراب افتاده آب بیا آب بیا از گلوی خشک رودخونه از گلوی خشک رودخونه زایی که بمبسته دوست دارم ببوسمت خسته دوست دارم ببوسمت بی ترس زیر دوربینای مدار بسته دوست دارم دارم ببوسمت امشب.
Et vous êtes toujours à l'écoute de La Causerie, évidemment, toujours sur l'antenne de Canu, de Radio Canu au 102.2 sur la bande FM et sur radiocanu.org. Nous sommes toujours en compagnie de Roya et de Babak avec cette causerie spéciale Iran. Et la playlist, comme vous l'aurez compris, elle est faite par nos invités. Et on vient de s'écouter le titre « I would
like
to kiss you ». C'est ça ?
Oui, j'aimerais bien t'embrasser.
C'est... Il n'y a qu'à demander.
La chanson parle de vouloir faire quelque chose.
Oui.
Ça parle de, des monuments, architecture historique disparants, ma ville natale. J'aimerais bien t'embrasser devant le, la mosquée de Cheikh Lotfollah. J'aimerais bien t'embrasser devant le synagogue de David. J'aimerais bien... t'embrasser partout, au bord de la rivière et tout.
Parce qu'on va rappeler, chanson, pas trop, on va rappeler que ce n'est pas trop permis d'embrasser.
Ah, oui, oui, justement, c'est pour ça qu'on aimerait bien le faire.
Être libre, en fait, de voilà. Ces mouvements. Mm-hmm. OK.
Et
la parole a été... écrit par Mohsen Azadi, un des paroliers qui vit à Ispahan actuellement. Il est d'ailleurs assez actif dans le mouvement. Ouais, je pense qu'il a pris des petites balles à pompe aussi, ce qu'il m'a écrit. Oui, je reçois des fois des messages disant qu'on a pris des balles. On a peur d'aller vers l'hôpital ou les médecins parce qu'ils ne nous acceptent pas. Et s'ils nous acceptent, ils sont obligés de déclarer aux États qu'il y a un objet externe qui est dans le corps. Et ça ramène la police à l'hôpital. Donc, tu vas être déclaré comme quelqu'un qui est fautif.
Oui, et c'est ce qui explique en fait, parce que j'ai effectivement lu cette info-là, c'est que... souvent, il y a des rassemblements devant les hôpitaux pour éviter en fait que la police en fait vienne. En fait, c'est ça quoi.
J'avais deux invités il y a deux semaines, disparants, qui sont les médecins d'ailleurs, m'ont raconté que la police, il vient, il prend les manteaux des nurses et il se déguise en médecin à l'hôpital.
Ah oui.
Les polices, et il arrête les blessés quand ils arrivent, il vérifie tout. Voilà quoi, à l'hôpital, il n'y a pas de sécurité.
Ouais.
Donc les gens, ils ont peur d'y aller, se montrer aux médecins. Les médecins aussi, ils ont peur de soigner les blessés. Mais toujours, il y a les solutions, je trouve, entre mes amis, les médecins, les médecines qui soignent les gens. Mais tout le monde n'est pas en relation avec moi.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Okay. Il y a une solidarité quand même qui se met en place aussi en dehors de...
Oui, mais si on peut se faire confiance.
Oui, c'est ça.
Dans ma ville, les gens, ils n'arrivent pas à se faire confiance parce que les polices cachées sont partout. Ils disent qu'entre 10 personnes, il y a 5 qui travaillent pour l'État, avec lesquels on ne peut pas faire confiance.
Et le tout, en plus, alimenté par le climat de paranoïa dont on parlait tout à l'heure, qui est mis en place et répété, ce qui n'aide vraiment pas à la... Enfin, ce qui rend plus compliqué, finalement, la solidarité, quelque part, que... Enfin, oui, voilà, qui complexifie les choses, non ? Et Roya, du coup, toi, tu nous parlais un peu entre deux, pendant qu'on passait de la musique, officiellement, tu nous parlais en fait du fait qu'il y avait un besoin de solidarité, mais que tu trouvais qu'il fallait aussi que les peuples en général, et pas que iraniens, s'emparent du sujet. Tu pourrais expliquer un peu ce que tu voulais dire ?
Oui, parce que je pense qu'il y a une convergence entre les demandes des Iraniens et des Iraniennes. Avec les demandes, par exemple, du peuple français, voire américain, enfin, quel que soit le pays. Parce que ce que demandent les Iraniens, qui est très bien résumé dans la chanson de Baraye de Sherville, et qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent tout ce que demandent les autres peuples, un peu plus prononcé dans la démocratie et dans la liberté de vivre normalement, mais les demandes concernant l'environnement, parce qu'ils parlent aussi des espèces qui sont en voie de disparition, et sa chanson est très... les demandes pour l'écologie, les demandes pour pas de militarisme, la paix, pour une vie normale. Mais c'est une vie normale, c'est large, parce que même les Français qui sont face aujourd'hui au pouvoir d'achat, etc., ils demandent une vie normale pour pouvoir se chauffer en hiver. Donc, je pense que c'est des demandes qui peuvent converger, et les peuples peuvent comprendre les demandes des Iraniens. Il faut qu'on crée cette solidarité avec les associations, enfin les syndicats, les gens ordinaires dans ces pays. Parce que ce que je vois, il y a beaucoup de pétitions adressées à Macron, à Biden, etc. Mais bon, on va voir l'impact, hein, parce qu'eux, ils ont leur réelle politique et leur décision très, très… voilà. Alors qu'il faut faire pression avec les gens. Faire connaître la cause des Iraniens et de montrer que les Iraniens sont des gens comme eux, qui ne demandent que de pouvoir vivre normalement, vivre comme il faut, dans la paix, parce qu'il y a beaucoup de problèmes environnementaux aussi en Iran. Manque d'eau, réchauffement climatique, des régions où on ne peut plus cultiver. Isfahan, par exemple, il y a eu récemment, il y a un an, des manifestants par rapport au fait qu'il n'y avait pas d'eau. Et donc, tout ça, c'est des demandes, j'ai envie de dire, universelles. Et il faut que les Français nous comprennent. Ce n'est pas que parce que les femmes en Iran sont sous un régime théocratique, c'est une vérité, mais on a des soucis qui ressemblent beaucoup aux soucis des Français.
En gros, tu appelles à une révolution mondiale.
Une solidarité mondiale.
Et de la solidarité viendra la révolution. Non, mais en plus, c'est quelque chose.
C'est vrai, c'est vraiment, je pense qu'on a des convergences de.
Mais nous, on est. Enfin, là, tu prêches, entre guillemets, des convaincus, parce que, effectivement, on pense aussi beaucoup à la causerie que les problèmes des humains d'un bout du monde sont aussi nos problèmes et qu'on partage beaucoup de choses, en fait.
Juste, je voulais rajouter quelque chose que peu de gens comprennent. L'Iran, ce n'est pas un pays pauvre, hein, il faut le rappeler, c'est un pays plutôt riche, de par toutes les richesses du pays, dans lequel se trouve une population appauvrie par un régime. C'est-à-dire que c'est ce que les gens ont du mal à comprendre, parce que moi, en discutant autour de moi, il y a des gens qui disent « mais l'Iran, c'est très pauvre et tout ». Non, l'Iran, c'est un pays riche au départ, et même historiquement, hein, pas aujourd'hui, ça a toujours été une région assez riche. Et donc du coup, ça rend d'autant plus comment dire les liens forts avec nous qui sommes dans des pays riches, comme on dit. Voilà, donc on a effectivement un lien évident à tisser.
Oui, c'est vrai. Je propose d'aller chercher, lire un peu de l'Empire de Perse, des écrivains, les scientifiques, les poètes et tout. Il y a quelque chose à lire, à comprendre, à savoir sur l'Iran.
On arrive à la fin de cette émission.
Je t'allais peut-être vers ça, mais est-ce que justement vous avez, je ne sais pas, peut-être que vous n'en aurez pas, mais des sites où vous trouvez de l'information ou recevoir de l'information, comment on peut essayer d'être au plus près de ce que vivent les Iraniens, les Iraniennes qui se soulèvent Mais après, vous pouvez aussi me dire qu'il n'y a pas vraiment de site, hein, vous avez le droit. C'est juste, essayer de trouver des fois de l'information. C'est
cool. Il y a des chaînes de satellites qui se présentent à l'extérieur d'Iran, comme BBC, comme VOA, Voice of America, International, GMTV, avec lesquels ne sont pas d'accord la plupart des gens. Et aussi le gouvernement d'Iran. mais comme des actions artistiques interdites de passer par télé iranien, on a l'habitude de participer aux télé étrangères qui parlent d'Iran, qui sont focalisées sur l'Iran. Par exemple, moi-même aussi, j'ai participé une fois à la télé extérieure d'Iran. Voilà, mais c'est des fois mal vu par les gens, par les intellectuels, d'aller vers les chaînes qui sont à l'extérieur, qui sont financées par Angleterre ou les États-Unis ou Arabie Saoudite. Voilà, moi, j'évite, sauf si je suis obligé ou s'il y a un message très important à dire. Mais à part ça, il y a les chaînes de Telegram, des pages de Facebook, de Instagram, Anonymous,
Ouais. OK.
qui sont un nombre, enfin je sais, enfin je
Non,
sais
il a raison. En
pas.
fait, il y a pas, je pense qu'il n'y a pas un site spécifique où on peut vous dire allez sur tel site et vous avez toutes les infos objectives. Moi, j'en connais pas. Mais comme dit Babak, c'est très dispersé, comme un peu le mouvement en Iran qui est très dispersé. Donc, je pense que vous voyez beaucoup de vidéos qui circulent par les gens, par différents. Enfin, j'ai entendu que le hashtag Mahsa Amini a dépassé 400 millions. Enfin, il y a énormément d'informations qui circulent. Je ne connais pas un site où je peux vous dire allez sur ce site et tout est bien centralisé, malheureusement. Après, vous pouvez lire. Si c'est bien sûr, c'est en français que vous voulez lire. Moi, je fais ici. Je pense que enfin, il y a différents canaux où vous pouvez lire sur l'Iran, mais je n'ai pas un site précis où que je peux vous dire tout est centralisé.
Ok, ben
Il
impeccable.
faut regarder tout ce qui vient. Et puis, il
Ouais,
fait,
c'est pas
y a
faux, c'est pas
énormément de
faux
choses
quand il y a des
qui vont. Il faut
vidéos qui.
filtrer. Il faut filtrer soi-même, mais il y a tellement de choses, et c'est bien ça, c'est une grande diversité des informations qui sortent d'Iran.
Tu voulais dire, Babak?
Ouais, comme elle a dit, Roya. Ouais, si vous voulez vous informer par les textes, enfin, il faut lire les journaux français, il y a rien d'autre. Mais si visuellement vous voulez regarder, il y a des vidéos qui, avec hashtag Thomas Saint-Mini, sortent partout et ce ne sont pas fausses.
Ok.
Il n'y a pas de fausses infos sur les vidéos. Il y a tout ce qui se
Oui,
passe
c'est
dans
vrai.
les rues d'Iran. Ça suffit de regarder et se sentir un peu responsable quand même. Je parle pas de vous, hein. Je parle de tous mes amis qui voient mes posts et qu'il sait pas réagir. Enfin, il sait pas quoi faire. Est-ce qu'il doit liker? Est-ce qu'il doit ajouter une phrase? Enfin, je parle de mes amis français et francophones. Je sais pas comment ils se sentent. Quand je poste une vidéo dans laquelle quelqu'un a été arrêté, il ne réagit pas. Et je ne sais pas, enfin, je vous demande, c'est comment le sentir? Pourquoi vous ne likez pas? Pourquoi vous ne réagissez pas?
Et tu veux dire qu'il faut aussi prendre position.
Prendre position, après, je sais que ce n'est pas facile de prendre la position sur un autre pays, mais. Je sais pas.
On peut être solidaire de ceux qui sont massacrés par une police, qui se font battre, qui se font emprisonner, qui se font hospitaliser, qui se font tuer. En fait, ça, on peut être solidaire de ces gens-là, quoi.
Pense que ce qui veut peut-être dire, et c'est aussi ce que j'ai envie de dire, ne pas rester indifférent
C'est ça.
et que les gens s'expriment, que les gens s'expriment, peu importe la vie, c'est le fait de s'exprimer. Se sentir aussi concerné
Oui, moi je vois qu'ils ont bien intéressé d'être informés, mais je vois pas le réagir.
Faut passer le pas de l'information,
Oui.
aller vers la solidarité.
C'est ça, il faut travailler ça.
Oui, et on peut rappeler, alors c'est ça a lieu à Lyon, mais ça a aussi lieu à Paris et dans d'autres villes. Quasiment tous les samedis, il y a des manifestations de soutien aux Iraniennes et aux Iraniens. C'est aussi un lieu où vous pouvez aller exprimer votre solidarité avec elles et eux, quoi.
Très bien.
Eh bien, Roya et Babak, on arrive là cette fois-ci
Ouais.
vraiment à la fin de l'émission. On va vous remercier de nous avoir accordé ce temps. Surtout que là, on le redit, on est jeudi soir,
Oui.
on est le 10 novembre et que vous avez pris le temps de faire ça via les réseaux. Juste, on va terminer cette émission avec un titre qui est. Ouais,
Ah, mais moi j'avais
ah.
juste, est-ce que vous avez, vous,
J'ai oublié quelque chose.
un petit message à passer, un bonjour, je sais pas, quelque chose qui vous traverse l'esprit, que vous avez envie de dire avant qu'on se quitte?
Moi, j'ai envie de vous remercier parce que c'est oui, parce que c'est une radio associative, c'est une radio indépendante et qui nous donne l'occasion de parler. Donc voilà, c'est des initiatives comme ça qu'il faut. Donc je vous remercie.
Avec
Avec
plaisir.
plaisir, vraiment.
Pareil, j'essayais dans ma vie artistique d'être vraiment indépendant. J'apprécie quand je vois un média qui est indépendant aussi. Voilà, comme j'ai dit, information, passer les informations, des vraies informations qui a été vécues par les gens qui sont à fond dans les actes et le mouvement d'Iran. C'est la première chose. Dans un pays étranger, enfin, quand je dis étranger, ça veut dire pas Iran, les autres pays, parce que les gens, ils doivent être informés et puis après, pour pouvoir réagir. Je vous remercie et je remercie tout le monde à m'écouter.
Merci à vous deux et enfin et n'hésitez pas aussi à nous recontacter s'il y a des informations, si vous voulez rediscuter tout ça parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire et à faire, donc n'hésitez pas. Et on se quitte donc avec un dernier titre. Encore un de Babac?
Non. Et celui-là, il est au titre qui sonne comme la révolte ou la révolution actuelle en Iran, Femme, vie, liberté.
Oui, je l'ai chanté dans un concert le 25 octobre à Benu, bibliothèque nationale,
Universitaire.
universitaire. À Strasbourg. Je remercie la salle parce qu'ils nous ont mis assez rapidement à disposition la salle parce que c'était l'urgent de jouer et être voix les Iraniens par les chansons. J'ai composé cette chanson avec le refrain qui dit Femme, vie, liberté.
Bien. Et ça donne quoi en persan?
Zan, Zendegi, Azadi.
Merci.
Ok. Eh bien, merci à vous deux vraiment beaucoup. Et puis une pensée pour toutes les Iraniennes et Iraniens qui se battent et qui luttent contre ce régime.
Merci
Merci à vous
beaucoup.
deux.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
برچیده شود حجاب اجباریتان، این بند و بساط مردم آزاریتان، در سینه تاریخ وطن خواهد ماند بیشک اثر سیاه خونخواریتان. زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، زن زندگی.
کنارت بزنم آتش به تمام کار و بارت بزنم این بار اگر به موی من گیر دهی با موی بلند خیش دارم
زندگی آزادی